Bonjour à tous, bienvenue dans Contact, l'émission qui vous plonge dans les mots d'un auteur tous les mercredis à 22h30. Pendant une demi-heure, c'est lecture sur Canal B. Vous avez bien entendu, c'est lecture. Pas question de parler de littérature. Ici, on va lire des livres, tourner des pages. Bref, on va vibrer au rythme des belles formules. Pour vous conduire dans cette expédition littéraire hebdomadaire, un lecteur modeste, votre serviteur du soir, Edgar, pour vos beaux yeux, chers auditeurs. Lors de nos derniers épisodes, nous avons parcouru ensemble le Grand Nord de Jack London, le Pérou de Florence Tristram et la Mer Rouge d'Henri de Montfred. Ce soir, je vous propose de partir en montagne avec un guide de légende, Roger Frison Roche. Ensemble, nous allons parcourir quelques extraits d'un sommet de la littérature de montagne, La Grande Crevasse, publié en 1948. C'est le sixième roman de Frison Roche et un de ses plus grands succès. C'est aussi le deuxième ouvrage d'une trilogie qui commence par Premier de Cordée et qui s'achève par Retour à la montagne. Il raconte l'histoire d'amour d'un guide de haute montagne et d'une bourgeoise parisienne. Ensemble, ils luttent contre les éléments de la nature, mais aussi contre les difficultés encore plus grandes de leurs différences culturelles. Amoureux de l'alpinisme depuis sa jeunesse, Roger Frison Roche est également connu pour ses écrits sur le Sahara. En vrac, il fut aussi résistant, journaliste et même moniteur de ski. À travers ses romans, il a transmis sa fascination pour la montagne à des millions de lecteurs et fut un de ceux qui a véritablement lancé la mode de l'alpinisme en France. Notre lecture du jour, je commence au début du roman. Bonne écoute à tous. Jusqu'à cette fameuse enjambée au-dessus du vide, tout avait bien été. Certes, l'aide de la corde d'attache discrètement tenue par Laurent Bournet n'avait pas été inutile. Encore, songeait Sylvain Kip, la figure cramoisie par l'effort, encore avait-il dû déployer toute son énergie. Quand on a 50 ans et qu'on traîne 110 kilos, on ne peut pas se permettre dans le rocher les mêmes acrobaties que les jeunes de 20 ans. C'était déjà bien joli de pouvoir faire ça. À présent, il reprenait son souffle, le corps collé à la paroi, en équilibre instable sur deux prises de pied. Le passage du grand surplomb, qu'il venait de terminer, l'avait mis à rude épreuve. C'est à peine s'il osait regarder entre ses jambes le vide qui se creusait et tous ces arbres qui, vus d'ici en perspective verticale, semblaient plantés tout de guingois et le lac à l'anglais, dans les eaux stagnantes couvertes de feuilles mortes, miroitaient comme une nappe de plomb. « Faut traverser vers moi maintenant !» La voix de Laurent Bournet semblait lui parvenir directement par cette corde de 11 mm qui partait de sa ceinture et contournait la falaise. Laurent, lui, on ne le voyait pas. Un bombement de la paroi le masquait et cela compliquait beaucoup la manœuvre. « Suivez la corde !» dit Laurent. Kip ne put réprimer un mouvement d'humeur. « Suivez la corde, suivez la corde. T'en as des bonnes. Je voudrais t'y voir. » C'est bien une idée de Ziane de m'avoir fourré dans ce passage difficile. Si encore il était là, Ziane. Certes, il avait une entière confiance en Laurent, mais ça n'était pas la même chose. Quand Ziane était devant, tout allait mieux. Trop bien même. « Vous vous habituez à moi, Kip ?» disait-il. « Vous devenez trop confiant. Aujourd'hui, vous marcherez derrière Laurent. Comme ça, vous serez obligé de vous débrouiller. car il ne connaît pas toutes vos manies, Laurent. » Il avait bien fallu obéir. On en passait toujours par où on voulait avec Ziane, car il savait la diriger, son école d'escalade. Et tous, vieux et jeunes, faisaient, sous sa conduite, d'étonnants progrès. « Vous arriveriez à faire grimper un paralytique, lui disait-on parfois. » À l'autre bout de la corde, Laurent devait s'impatienter, car une discrète traction faillit arracher le gros soyeux lyonnais des prises sur lesquelles il hésitait. « Alors, c'est oui ou c'est non ?» disait la voix. Il fallait se décider. Kip soupira et chercha maladroitement à progresser vers la droite. Il dominait d'une trentaine de mètres le pied de la falaise des Guinyans. Il s'agissait de rejoindre, à main gauche, une arête rocheuse où se devinait un petit début de vire. Laurent Bournet était quelque part derrière. Kip devait se débrouiller tout seul. On lui avait expliqué s'élever sur la jambe droite, faire de l'opposition dans le dièdre avec la jambe gauche, le pied posé à plat sur la paroi. Se pencher à l'horizontale pour rattraper une prise de main sur l'arête. Ensuite c'était tout, avait dit Laurent. Plein de bonne volonté, il essaya. Ça devait finir comme ça. Sans doute Laurent s'y attendait-il, car il avait passé sa corde dans un piton, mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Kip lâcherait prise sans prévenir. Les autres criaient toujours avant. De sorte qu'il avait reçu le choc sur un seul bras, l'autre lui servant à garder son équilibre sur l'étroite plateforme où il se trouvait. Ça lui tirait les muscles à les arracher, mais il tint bon. Maintenant, une voix étouffée parvenait jusqu'à lui. « Laurent, je lâche! Je lâche tout !»« M'en doute que vous lâchez tout !» grogna Laurent. Le guide ne s'effrayait pas outre mesure. La corde passait dans deux solides pitons de fer, si seulement le client voulait faire un effort. « Je tiens bon ! Kip !» cria-t-il. « Tirez-vous après la corde ! Tâchez de remonter jusqu'à la vire, allez-y !» Il encourageait, il se faisait persuasif. Mais Kip, complètement épuisé, n'était plus qu'une loque. Il ressemblait, vu d'en bas, à un gros pantin disloqué pendant le long de la paroi rocheuse. La corde lui sciait la poitrine, lui ôtant le peu de souffle qu'il avait conservé, il haletait. « Vite, Laurent, j'étouffe !» Alors, comme il ne pouvait rien faire d'autre, Laurent appela Ziane à son aide d'une voix très calme, où on ne perçait aucune émotion. Aucune émotion. Il disait « Ziane, oh Ziane, dépêche !» Il ne sourcilla même pas quand la réponse lui parvint d'en haut. « Tiens bon, j'arrive !»
Il quitte un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant, montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver? Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver?
De retour dans Contact, vous êtes toujours sur Canal B et vous avez raison, vous venez d'écouter La Montagne de Jean Ferrat. Chers auditeurs, je vous invite à poursuivre la lecture de La Grande Crevasse de Roger Frison-Roche. La falaise des Gaillans domine la route nationale du Fayet à Chamonix. À sa base, deux étangs, qu'on nomme ici des lacs, gisent dans un fouillis de végétation alpestre. L'herbe alentour est parsemée de gros blocs, car les couloirs de rochers sont l'exutoire naturel des avalanches descendant du plan Lachat. Le plus petit de ces lacs baigne la paroi de roc. Le vent d'est y dessine des moirures chatoyantes et tout un paysage frisonnant s'y reflète par temps clair. On l'appelle le miroir du Mont Blanc. De nombreux promeneurs s'y rendent de Chamonix pour admirer le panorama du Mont Blanc. Cette école d'escalade procure en outre aux flâneurs un spectacle gratuit. Tout au sommet de la falaise, à près de 80 mètres de haut, Zian Mapaz a rassemblé sur une large vire rocheuse les deux cordées qu'il vient d'entraîner par le passage du Dièdre Gris. Chacun apprécie ses minutes de repos après l'effort. On entend le murmure de la forêt toute proche, le bruissement soyeux des trembles et des bouleaux argentés. Le soleil tourne peu à peu derrière les croupes boisées de merlet, laissant le rocher dans l'ombre, il éclaire violemment la haute chaîne festonnée dans le ciel incroyablement foncé du mois d'août. Parfois, le bruit sourd d'un sérac se détachant quelque part dans l'immense chaos glaciaire signale l'activité millénaire de ces monts en apparence assoupis dans l'air calme de l'été. De belles volutes de nuages flottent à mi-chemin de la cime superbe, présageant un temps serein. Zian est heureux, comme on peut l'être lorsqu'on a mené à bien son escalade, et il a bien fait partager sa joie à ses élèves, tous chantent en sourdine un cœur montagnard. C'est à ce moment qu'il perçoit l'appel de Laurent. « Zian ! Oh Zian ! Dépêche !» La voix monte jusqu'à lui, il ne demande pas d'explication, si Laurent appelle, cela doit être grave. D'ailleurs, il a compris. Kip a dérapé en faisant l'enjambée au-dessus du grand surplomb, il faut agir vite, car Kip est lourd et les meilleures cordes peuvent casser. Il crie « Tiens bon, j'arrive !» Puis, tourné vers Boule, il ajoute, plus doucement « Tu ramèneras tout le monde au pied de la paroi, moi je file !» Sans attendre un ordre de Zian, Boule a déjà lancé le rappel. Son camarade l'empoigne et se laisse glisser avec virtuosité jusqu'à la grande plateforme qui sépare en deux dalles bien distinctes la paroi rocheuse. Puis, négligeant la corde, il dévale face au vide jusqu'au bas de la falaise. C'est bien plus une chute dirigée qu'une descente. Zian trouve en cette occasion sa forme des grands jours. Il adhère avec une souplesse quasi simiesque au rocher qu'il ne fait qu'effleurer, se détend d'une prise à l'autre, rebondit telle une balle. Toutefois, ses gestes sont si précis qu'il atteint toujours l'aspérité invisible, devinée d'avance, d'où ensuite, par un effort partant sur un seul doigt, sur le bout de son espadrille, il ira s'accrocher à une autre prise minuscule sur cette muraille familière où l'habitude décuple la perfection de sa technique. Quelques badauds arrêtés au bord de la route nationale suivent avec intérêt ce qu'ils prennent pour une démonstration et qui en réalité est un sauvetage. Arrivé en bas, il juge d'un coup d'œil la situation. C'est bien ce qu'il pensait. Kip, geint là-haut, au bout de la corde, il a pendulé de quelques mètres et ça lui a coupé le souffle. Laurent, le visage un peu crispé, n'a pas bougé d'un centimètre sur sa vire. Il voit venir Ziane. « Dépêche, je prends la crampe !» dit-il simplement. « Tiens bon !» Pour gagner le pied du surplomb, Ziane bouscule presque deux jeunes femmes qui se prélassent à l'ombre et ne perdent rien du spectacle. L'une d'elles surtout semble s'amuser follement de la situation. Là-haut, le malheureux Kip fait des contorsions grotesques pour se dégager, puis il y renonce. Ziane, déjà, s'élève le long de la paroi, il y progresse lentement avec une précision mathématique. Personne, le voyant évoluer de la sorte, ne soupçonnerait la difficulté du passage. Il se coule sous le surplomb et arrive au niveau des pieds du grimpeur en difficulté. Alors, il coince un genou dans une étroite fissure et fait peser dessous tout le poids de son corps. Il sent la pierre s'incruster dans sa chair, ainsi suspendue à 30 mètres de hauteur. Il prête ses épaules à Kip, lui tient fermement la cheville. C'est lourd, 100 kilos à supporter. Sur une seule cuisse coincée dans une faille d'autant plus. Il sent ses muscles se gonfler à craquer, cependant que cette masse de chair flageole cherche à s'élever, reprend appui sur les solides épaules. Elles sont solides comme un pilier de granit, les épaules de Ziane. Kip reprend son souffle, son cœur bat à coups violents, tandis que d'un effort surhumain, il cherche à progresser, il piétine sans ménager la tête du guide, ses épaules de nouveau, sa tête sans pouvoir gagner un centimètre. C'est alors que d'en bas, un éclat de rire parvient jusqu'aux deux hommes. Ziane peine à le croire. Sacre bleu, on ose se moquer, et pendant qu'on se moque, la fatigue l'envahit. Il sent les muscles de sa cuisse se durcir exagérément. C'est toujours ainsi avant la crampe. Et ce rire qui continue, elle ne voit donc pas que je ne peux me casser la figure, celle-là. Alors sa rage explose, il hurle. « Vous allez vous taire là-dessous !» Kip lui dira plus tard qu'il a juré grossièrement, mais il affirmera le contraire. Dans le silence qui suit, il voit plus clair. Kip peut enfin saisir à deux mains un solide rebord, et puis de sentir Ziane sous lui, qui le soutient de sa large nuque, de ses fermes épaules, il n'a plus peur tout d'un coup, le miracle s'accomplit, Ziane parle et Kip obéit.
Be se fe
De retour dans Contact, l'émission qui vous plonge dans les mots d'un auteur, tous les mercredis à 22h30 sur Canal B 94 MHz. Vous venez d'écouter Montagna Dea de Bastien Mikeo. C'est parti pour la troisième et dernière lecture du jour, toujours dans les pas de Zian. La fête des guides avait lieu ce même soir du 14 août 1932 au casino. Après avoir quitté ses élèves, Ziane n'avait eu que le temps de remonter au village des Prats pour se changer. Le costume qu'il avait fait faire pour la noce de Pierre Servetaz était encore très bon. Il était bien décidé à s'amuser. Un jour de détente au milieu d'une longue saison de montagne, cela remet de toutes les fatigues. En passant, il avait pris Nanette Guichardaz et tous deux avaient rejoint, chez Breton, Laurent, Boule et les autres guides. Ils étaient arrivés en avance au casino. Le vieux Kléber, chargé de la réception, les avait dirigés vers la table réservée aux guides, un peu à l'écart. Dans le fond de la salle, on leur avait servi du crépi pétillant et de là, ils avaient vu arriver tout le monde. Il y avait foule. Au centre se trouvait la table d'honneur avec les officiels, le maire, le président du syndicat, etc. Puis, autour de la piste de danse en verre dépoli éclairé par en dessous, étaient dispersées les tables destinées aux invités. Ziane reconnaissait la plupart des clients habituels des guides, ceux que l'on croise sur les glaciers ou qu'on rencontre dans les cabanes, mêlés à une multitude de touristes quelconques, de ceux qui ne quittent jamais la station. Nanette aurait bien voulu danser. Pas encore, avait dit Ziane. On va pas ouvrir le bal, nous autres. Mais quand les touristes avaient envahi la piste, eux, du coup, n'avaient plus osé. On est plus à l'aise dans le rocher, soupira Paul Mouni. De la sorte, le temps avait passé et il commençait à s'ennuyer. C'est alors que le chef d'orchestre, un bout en train qui aimait bien les guides, s'aperçut de la situation. Il ordonna un roulement de tambour et dans le silence qui suivit, il annonça « Mesdames et mesdemoiselles, mesdames, mesdemoiselles, une série bleue pour faire danser les guides. » Ça devait changer toute la vie de Ziane, cette danse. Elle était venue droit vers lui à travers la salle et alors il eût voulu être à 100 pieds sous terre. Si encore elle avait fait le grand tour, si elle s'était faufilée discrètement au milieu des tables, mais non, elle s'était levée la première et toute la salle l'avait remarquée. Puis, coupant au plus court vers la table des guides, elle avait franchi la piste de danse déserte qui l'isolait de la lumière, tandis que tous la suivaient du regard et l'admiraient, car elle était très belle. Ziane l'avait vu venir, lui aussi, et tous ses camarades, elle semblait presque trop belle. Comme ces vedettes qu'on voit sur l'écran, dans la réalité, les femmes ne sont jamais aussi parfaites. Nanette elle-même paraissait en convenir. « Elle est rudement bien, » fit-elle naïvement. Et malgré lui, Ziane avait fait la comparaison avec Nanette. Puis il avait détourné son regard, gêné. Mais il n'y avait pas eu le temps de penser plus avant. Elle s'était trouvée tout à coup devant lui, souriant d'un air malicieux, ébauchant une sorte de révérence. « Puisqu'il est permis de choisir son cavalier, voulez-vous valser avec moi, monsieur Ziane ?» Alors seulement il reconnut la jeune fille à sa voix. Mais ne comprenant pas pourquoi elle était venue à lui, il resta là, tout interdit, les bras ballants. Boule fut obligé de la pousser, de le pousser du coude. « Fais pas attendre, Ziane, vas-y !» Il l'enlaça alors comme dans un rêve et ils se mirent à valser. D'autres couples tournaient maintenant autour d'eux et Ziane prenait un peu plus d'assurance. Tout d'abord, ils n'échangèrent pas une parole. Ce ne fut qu'un peu plus tard, après la reprise, qu'elle parla la première. Lui gardait un air taciturne, mais la valse dissipait peu à peu sa gêne. « Vous m'en voulez encore ?» demanda-t-elle. Il aurait voulu répondre qu'elle avait été odieuse, qu'il la détestait, tout ce qu'il s'était promis de lui dire cet après-midi au Gaillan si un jour il la rencontrait sur son chemin. Mais elle le regarda bien en face et il sentit toute sa rancune fondre comme neige de printemps sous le souffle de feu. Alors, elle entreprit de l'apprivoiser. Quand il revint vers la table des guides, on y discutait ferme. Le vin déjà faisait son effet. Boule s'apprêtait à lancer une boutade, mais Yann l'arrêta d'un geste. L'autre comprit qu'il ne fallait pas plaisanter. Dans son coin, Nanette se taisait. Yann laissa passer une danse, puis une autre et une autre encore. Soudain, tandis que l'orchestre recommençait à jouer, il se leva brusquement et, comme on se jette à l'eau, il traversa la piste, tout droit, seul, avant tout le monde, jusqu'à sa table. Elle le regardait venir en souriant. La lecture est terminée pour aujourd'hui. Si ces quelques pages vous ont plu, La Grande Crevasse de Roger Frison-Roche est éditée chez Artaud. Merci pour votre attention. L'émission est à réécouter, comme d'habitude, en podcast. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit et bonne lecture.